Chapitre 19. Le lendemain matin, quand Dale arriva chez Harlan pour l'inviter à passer l'après-midi à la ferme de son oncle Henry, il se rendit compte combien son copain avait souffert de la solitude. Sa mère n'était pas tout à fait sûre qu'il soit assez remis pour supporter une telle sortie, mais Dale avait apporté une invitation écrite pour elle et elle céda aux supplications de son fils. Le père de Dale revint vers 14h et ils partirent tous pour la ferme à 15h30. Harlan, encore handicapée par son plâtre encombrant, et sa mère eurent droit au siège arrière. Kevin, Mike, Dale et Lawrence s'entassèrent au fond et chantèrent à tue-tête tout le long du chemin. Leurs hôtes avaient installé des fauteuils à l'ombre des arbres de la cour, et il y eut maints échanges de saluts et de nouvelles, tandis que Biff, le berger allemand d'oncle Henry, les gratifiait de sa danse de bienvenue. Puis les adultes s'installèrent au frais, et les enfants allèrent chercher des pelles dans la grange avant de se diriger vers le pâturage le plus éloigné de la maison. Ils prirent soin de marcher au rythme d'Harlan, ouvrirent les barrières au lieu de les escalader, et le blessé, dans l'ensemble, tint bien le coup. Ils arrivèrent enfin à la lisière des bois, retrouvèrent le long de la rivière les traces de leurs fouilles des étés précédents et se remirent à la recherche de la caverne des Bootleggers. À l'origine, cette caverne n'était qu'une légende, mais l'oncle Henry la leur avait racontée et les enfants avaient pris son récit pour parole d'évangile. Aux environs de 1920, à l'époque de la Prohibition et avant que l'oncle Henry n'achète la ferme, le précédent propriétaire avait autorisé des vendeurs d'alcool clandestins à cacher leur gnôle dans une ancienne grotte au fin fond de ses terres. Celle-ci était devenue un entrepôt important et on avait tracé un chemin d'accès. Puis on l'avait agrandi et un véritable débit de boissons clandestins et souterrains s'y était ajouté.
« Des tas de caïds s'y arrêtaient en revenant de Chicago », leur avait dit l'oncle Henry.
La fin de l'histoire était très curieuse. Peu de temps avant la fin de la Prohibition, la police fédérale avait fait une descente et les agents, plutôt que tout déménager, avaient préféré dynamiter l'entrée. La grotte s'était écroulée sur le stock d'alcool, le bar d'acajou, le piano, ainsi que sur les trois camions et la Ford Model A garés dans les entrepôts. Puis les agents fédéraux avaient rasé le chemin d'accès et ses abords afin que nul ne puisse jamais retrouver la caverne. Dale et les autres étaient persuadés qu'en fait, seule l'entrée s'était effondrée. Le trésor n'était donc séparé du reste du monde que par 2 ou 3 mètres de terre qu'il suffisait d'enlever, si toutefois l'on trouvait le bon endroit où creuser. La bande persévérait et, au fil des ans, le pâturage, réservé aux taureaux quand il y en avait un à la ferme, s'était mis à ressembler à un champ de bataille. Dale, Lawrence et leurs amis exploraient systématiquement tous les trous, les creux et les surplombs, certains chaque fois d'être à 2 doigts de découvrir l'entrée de la grotte. Dale rêvait souvent à cette dernière pelletée qui laisserait apparaître la caverne obscure avec peut-être une lampe à pétrole encore allumée et leur enverrait en pleine figure une vieille odeur de torboyau. Dwayne arriva à la ferme vers 6h du soir. C'était son père qui l'avait déposé en allant à l'arbre noir. Il resta une demi-heure à parler avec les adultes avant de traverser la grange et de rejoindre le pâturage. Personne ne le remarqua, mais pour l'occasion, il avait mis son pantalon de velours beige le plus neuf avec sa chemise de flanelle rouge que son oncle Hart lui avait offerte pour Noël. Il retrouva ses amis, sales et fatigués, agglutinés autour d'un trou d'1,50 m à flanc de colline. La pente derrière eux était jonchée des grosses pierres qu'ils venaient d'extraire.
« Salut !» lança Dwayne en s'asseyant sur une des plus grosses pierres. « Alors, vous pensez que vous l'avez découverte cette fois ?»
Les ombres s'allongeaient et cette partie de la colline n'était plus au soleil. Le cours d'eau n'était qu'un maigre ruisseau 10 mètres plus bas, juste derrière l'emplacement plat que Dale considérait comme le site de la route disparue.
« On a cru un moment. Regarde, on a trouvé ce vieux bout de bois pourri derrière ce rocher. »«
C'est une vieille souche ?»«
Mais non !» s'écria Lawrence furieux. « C'est un des trucs en bois au-dessus de l'entrée !»«
Un étai !» expliqua Mike.
Dwayne hocha la tête et poussa du pied le morceau de bois.
« Vraiment ?»«
Je leur ai dit qu'ils se foutaient le doigt dans l'œil !»
intervint gaiement Harlan. Il n'avait pas l'air trop à l'aise et portait encore un bandeau au front qui rappela à Dwayne le roman de Stephen Crane, « La conquête du courage ». Mais il imaginait mal son copain en Henry Fleming.
« Tu as creusé toi aussi ?»
lui demanda-t-il.
« Moi ? Jamais ! Mon boulot, ce sera de vendre l'agneau quand on la retrouvera. »
« Tu crois qu'elle sera encore bonne ?»«
Eh, ça vieillit bien, ce truc, non ? Le vin et tout ça. Plus c'est vieux, meilleur c'est. »
Mike O'Rourke sourit.
« Le malheur, c'est qu'on n'est pas vraiment sûr que ce soit pareil pour l'alcool. »
Dwayne entra dans le jeu.
« À mon avis, vous gagneriez plus d'argent en vendant les vieilles voitures qui sont là-dessous. »
Quel mal y avait-il à rêver d'une caverne d'Ali Baba enterrée sous quelques mètres de terre ? Ce n'était pas plus délirant que ses propres recherches de ces deux dernières semaines. Sauf que, il le savait maintenant, ses hypothèses n'avaient rien de délirant. Il porta la main à sa poche de chemise, puis se souvint. Son carnet était resté à la maison, dans sa cachette, avec tous les autres.
« Ouais, » intervint Dale. « Ou alors, on pourrait faire fortune rien qu'en faisant visiter la caverne. Oncle Henry dit qu'il y aurait juste à installer l'électricité. Il faudrait tout laisser tel quel. »
« Bonne idée, » approuva Dwayne.
« Ah, ta mère m'a dit que vous deviez rentrer à la maison. Les steaks sont sur le grill. »
Ils hésitèrent un instant, tiraillés entre leur enthousiasme déjà un peu usé et leur faim grandissante. Celle-ci l'emporta. Ils revinrent d'un pas lent, les pelles sur l'épaule comme des fusils, bavardant et riant. Les vaches laitières rentrant à l'étable les regardèrent d'un air interrogateur en gardant leur distance. Ils étaient encore à 200 mètres de la dernière barrière lorsque la brise du soir leur apporta l'odeur des steaks en train de cuire. Ils mangèrent dans le patio d'allée bordant la façade est de la maison, tandis que l'ombre engloutissait petit à petit la lumière dorée du jardin. La fumée montait du barbecue qu'Oncle Henry avait construit derrière la pompe. En dépit des protestations de Mike, l'assurant que du maïs, de la salade et un dessert lui suffisaient largement, Tante Lena avait tenu à lui préparer deux poissons chats panés et tout croustillants. Deux grands saladiers d'oignons accompagnaient les légumes cueillis une heure plus tôt dans le potager et le lait, glacé et bien crémeux, venait de la laiterie de la ferme. Pendant qu'il mangeait, la chaleur du jour se dissipa lentement. Une petite brise s'était levée, séchant l'humidité et faisant frissonner les branches au-dessus de la pelouse. De l'autre côté de la route, les immenses champs de maïs semblaient converser dans un langage inconnu et soyeux. Les enfants dînèrent un peu à l'écart, assis sur les marches ou juchés sur les jardinières entourant le patio, tandis que les grands tenaient leurs assiettes en équilibre sur leurs genoux ou sur les larges accoudoirs des fauteuils. Oncle Henry avait sorti un tonneau de bière maison et les chopes avaient été rafraîchies à l'avance dans le congélateur. À la fin du repas, les garçons prirent leur dessert, tarte à la rhubarbe et gâteau au chocolat, les deux, pas au choix, et montèrent au belvédère au-dessus de l'atelier d'Oncle Henry. Les enfants adoraient le belvédère le soir et savaient que tôt ou tard, les grandes personnes se décideraient à quitter le patio pour les y rejoindre. C'était une sorte de terrasse aussi grande qu'un court de tennis, formée de plusieurs plateformes à différents niveaux avec des marches et des passages semblables à des coursives. De là, on avait une vue panoramique sur la route et les champs de M. Johnson à l'ouest et au sud sur l'entrée, la piscine construite par Oncle Henry et même sur le cimetière l'hiver lorsque les arbres étaient dénudés. Du côté est, on était au niveau du fenil et on dominait l'étable et la grange. Dale avait toujours l'impression que, métamorphosé en chevalier du Moyen-Âge, il contemplait non pas un labyrinthe de poulaillers, porcheries et réserves diverses, mais les remparts d'une forteresse. Le belvédère était également meublé de ses fauteuils rustiques, étrangement confortables, fabriqués l'hiver par Oncle Henry, mais les enfants préféraient les hamacs. Il y en avait trois sur la plateforme la plus au sud. Deux d'entre eux avaient des supports métalliques, mais le troisième était fixé aux deux poteaux de bois qui soutenaient l'éclairage de l'entrée, 5 mètres plus bas. Les premiers arrivés, Lawrence, Kevin et Mike, s'entassèrent dans ce hamac et se balancèrent hardiment au-dessus de la balustrade. Les mères détestaient les voir là-dedans et les pères n'arrêtaient pas de leur crier de faire attention, mais personne n'en était jamais tombé. Seul Oncle Henry racontait que, s'y étant endormi un soir, il avait été réveillé en sursaut par Ben, le coq. Et quand il avait voulu se diriger vers ce qu'il croyait être la salle de bain, il avait atterri sur des sacs de nourriture pour bétail entassés dans le pick-up garé juste en dessous. Blottis dans leur hamac, les garçons se balancèrent, bavardèrent et oublièrent complètement qu'ils avaient projeté de retourner à leur fouille. D'ailleurs, il faisait trop sombre. Le ciel était encore bleuté, mais on distinguait déjà plusieurs étoiles et la rangée d'arbres derrière la mare n'était plus qu'une ligne noire.
Les vers luisants commencèrent à scintiller et au bord de l'eau, rainettes et grenouilles entonnèrent leur triste litanie. Des hirondelles voletaient, invisibles, dans la grange. Un hibou ulula au fond des bois. L'approche de la nuit semblait avoir changé la conversation animée des grands en un murmure amical, et même le bavardage des enfants ralentit et finit par cesser. On n'entendait plus que le grincement des cordes du hamac et les bruits de la nuit. Le ciel se ponctuait rapidement d'étoiles. Oncle Henry avait éteint les lumières de l'entrée et n'avait pas encore allumé celle du belvédère. Dale n'avait aucun mal à s'imaginer sur la dunette d'un bateau de pirates croisant dans une mer exotique. De l'autre côté de la route, le froissement du maïs rappelait le murmure de l'eau sous une étrave de navire. Si seulement il avait un sextant. Le soleil et l'énergie dispensée à creuser lui faisaient rougeoyer les joues et lui raidissaient les membres.
« Regardez !» dit Mike à voix basse. « Un satellite !»
Tous tordirent le cou pour regarder au-dessus d'eux. Le ciel s'était obscurci et la Voie lactée était clairement visible dans cette plaine éloignée des lumières de la ville. Effectivement, un point brillant se déplaçait, trop lointain et trop petit pour être un feu de position d'avion.
« Sans doute écho !»
dit Kevin de sa voix doctorale. Il leur décrivit le gros réflecteur que les États-Unis allaient mettre en orbite pour réfléchir les ondes hertziennes autour du globe.
« Je ne crois pas qu'il soit déjà lancé »,
objecta Duane de ce ton dubitatif qu'il utilisait lorsqu'il était le seul à être au courant.
« Ce ne sera qu'en août, il me semble. »
« Qu'est-ce que c'est, alors ?»
Duane remonta ses lunettes sur son nez et scruta le ciel.
« Si c'est un satellite, ça doit être Tyros. Echo sera beaucoup plus brillant, aussi brillant qu'une de ses étoiles. J'ai hâte de le voir.
J'ai une idée !»
s'exclama Dale.
« Revenons tous en août, on cherchera la grotte et le soir, on regardera Echo. »
Les applaudissements furent unanimes.
« Regardez, il s'en va !»
dit Lawrence. La lumière du satellite s'estompait, ils le regardèrent en silence s'éloigner. Puis Mike remarqua
« Je me demande s'il y aura un jour des gens là-haut. Les Russes s'en occupent sérieusement. »
répondit Duane des profondeurs du hamac où il s'étalait seul. Dale et Arlen occupaient le hamac opposé, mais ce fut Kevin qui répondit avec mépris
« Pfff, les Russes, on va les battre à plate couture !»«
Je n'en suis pas si sûr. Ils nous ont bien eu avec leur Spoutnik, vous vous en souvenez ?»
remarqua Duane. Dale n'avait pas oublié cette soirée d'octobre, 3 ans auparavant. Il était sorti déposer la poubelle à la porte, lorsque son père, ayant entendu à la radio que le satellite russe allait survoler la région, ses parents l'avaient rejoint. Lawrence, alors petit, dormait déjà. Ils avaient tous trois scruté le ciel, jusqu'à ce qu'à travers les branches presque dénudées surgisse une minuscule lumière parmi les étoiles.
« Je n'arrive pas à y croire », avait murmuré son père.
Et Dale n'avait pas su déterminer si ce qu'il trouvait si incroyable était la présence de cet engin dans le ciel, ou le fait que cet exploit ait été accompli par les Russes. Ils contemplèrent encore un moment le ciel, et ce fut Duane qui brisa le silence.
« Vous avez suivi Van Syke et les autres, en fin de compte ?»
Mike et Dale échangèrent un coup d'œil. Dale se sentait aussi coupable que s'il avait rompu un serment.
« On a commencé, mais... « Ça ne fait rien. De toute façon, ça ne pouvait pas nous mener bien loin. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce qu'on peut se retrouver demain, de jour de préférence ?»«
À la grotte ?»
proposa Arlen.
« Je... »
Les huées l'interrompirent.
« Pas question que je remette les pieds là-bas !» dit Kevin.
« Pourquoi pas le poulailler de Mike ?»«
Ok, »
dit Duane. « 10 heures ?» suggéra Dale. À cette heure-là, les dessins animés qu'il regardait le samedi matin avec son frère étaient terminés.
« Non, un peu plus tard, j'ai du travail à la ferme le matin. »« Après déjeuner ? 1 heure ?»
Tous acceptèrent, sauf Arlen.
« J'ai autre chose à faire. »« Je n'en doute pas, » se moqua Kevin. « Aller faire signer ton plâtre par Michel Staffney, par exemple ?»
Cette fois, il fallut que les grandes personnes montent les rejoindre pour que cessent rires et bourrades. Duane apprécia cette soirée et se félicita d'avoir remis à plus tard les révélations sur la cloche des Borgia. Et surtout de ne pas avoir raconté ce qu'il avait appris par Madame Moon. La conversation porta sur les étoiles, les voyages dans l'espace, la vie là-bas et, entre les discussions et la contemplation du ciel, le temps passa très vite. Dale fit part de leur désir de revenir plus tard pour voir Echo
et oncle Henry, aussi bien que tante Lena, jugèrent l'idée excellente. Kevin promit d'apporter un télescope et Duane proposa d'essayer celui qu'il avait fabriqué. Ils se séparèrent vers 23 heures. Sûr que le pater ne serait pas là avant l'aube, Duane se préparait à rentrer à pied, mais le père de Dale insista pour le ramener aussi et ce fut un véhicule bien chargé qui s'arrêta devant la ferme.
« C'est tout noir ?» remarqua Madame Stewart. « Tu crois que ton père est déjà couché ?»«
Je suppose. »
répondit Duane en se reprochant d'avoir oublié de laisser une lampe allumée. Monsieur Stewart attendit pour redémarrer que Duane ait tourné l'interrupteur de la cuisine et fait signe du seuil de la porte. Le jeune garçon regarda les feux arrière de la voiture redescendre l'allée. Conscient d'être en train de devenir complètement paranoïaque, il inspecta le rez-de-chaussée et ferma à clé avant de se rendre dans son sous-sol. Il quitta la tenue des dimanches et se doucha. Toutefois, au lieu de se mettre en pyjama, il enfila un vieux pantalon de velours, une chemise raccommodée mais propre et des pantoufles. Il se sentait physiquement fatigué, mais l'esprit très alerte, et il avait l'intention de s'entraîner un peu à écrire. De toute façon, avec la porte fermée à clé, il était bien obligé d'attendre le retour de son père. Il chercha sur son poste une station de démoine et se mit au travail. Ou plutôt essaya, mais ses descriptions lui parurent puériles. Peut-être ferait-il mieux d'essayer d'écrire une histoire complète. Non, il ne se sentait pas prêt. Il parcourut ses carnets, sur les pages desquels se succédaient essais, portraits de personnages, scènes d'action, imitations d'Hemingway, Mailer, Capote, Irwin Shaw, ses auteurs favoris. Puis, avec un soupir, il rangea tout ça dans sa cachette et s'étendit sur son lit, les pieds sur la barre de cuivre du bout. Le lit était trop petit pour lui maintenant. Il était obligé de dormir en chien de fusil ou en diagonale, mais il ne l'avait pas dit au pater car il n'avait guère les moyens d'en acheter un nouveau en ce moment. Il y en avait bien un autre au premier étage, mais c'était le lit conjugal du temps de sa mère et il n'osait pas le demander. Il fixa le plafond et songea à Madame Moon, à la cloche, à ce réseau de faits, d'implications et de déductions menant à une conclusion purement et simplement incroyable. Oncle Hart avait plus ou moins deviné. S'il avait découvert ce qui était arrivé en janvier 1900, qu'aurait-il pensé?
Les autres, dois-je leur en parler? Ils ont le droit de savoir, après tout. Ce qui se passe les concerne aussi.
Il s'assoupissait lorsqu'il entendit le pick-up rouler dans l'allée. À demi endormi, il se traîna jusqu'au rez-de-chaussée, traversa la cuisine et retira le crochet de la porte. Il était presque redescendu lorsqu'il se rendit compte que le moteur tournait toujours. Il remonta et alla à la porte. La camionnette était garée au milieu de la cour, tout phare allumé, la portière gauche grande ouverte. La cabine était éclairée mais vide. Un soudain grondement venu de la grange le fit reculer d'un pas. La moissonneuse batteuse sortit bruyamment, précédée de ses 10 mètres de bec cueilleur semblable à un bulldozer armé de couteaux. Il vit la lumière du lampadaire se refléter sur les cylindres cueilleurs et les chaînes damnées. Le pater n'avait pas remis les cages de protection. Par contre, il a bien pensé à ouvrir la barrière, se dit Duane, en voyant le lourd engin entrer dans le champ de maïs. Il aperçut son père, une silhouette dans la cabine sans vitre. Le pater était déjà rentré à ses sous pour maltraiter le camion, mais il n'avait jamais endommagé le matériel agricole. Une nouvelle moissonneuse batteuse ou même une autre ramasseuse à maïs à attacher au tracteur coûterait la peau des fesses. Duane traversa la grange en courant et hurla de toutes ses forces pour essayer de se faire entendre malgré le bruit. Peine perdue, l'engin coupa la première rangée et continua à avancer. Le maïs n'avait guère que 40 cm de haut et les épis n'étaient pas formés, mais la machine l'ignorait et broyait les tendres tiges. L'air était lourd de poussière et de sève. L'engin tourna à droite, puis à gauche, et roula ensuite lourdement droit devant lui, en taillant dans la future récolte une saignée de 10 mètres de large. Duane courut après son père, agitant les bras et hurlant à plein poumon. Mais le pater ne jeta pas un seul coup d'œil. L'énorme machine avait parcouru presque 200 mètres à l'intérieur du champ lorsqu'elle s'arrêta en cliquetant. Le moteur se tut. Son père devait pleurer de rage, écroulé sur le volant. Le garçon s'arrêta pour reprendre son souffle, Puis il repartit en courant vers la moissonneuse-batteuse maintenant silencieuse. Les phares étaient éteints, la porte ouverte, et la lumière intérieure ne marchait pas. Il s'approcha lentement, sentant sous ses pantoufles les tiges pointues du maïs cisaillé. Il se hissa sur la petite plateforme à gauche de la cabine. Personne. Il regarda autour de lui. Le maïs n'était pas haut, mais s'étendait sur presque un kilomètre dans toutes les directions, sauf du côté de la grange. La saignée derrière l'engin était très visible, même à la pâle clarté des étoiles, et le lampadaire de l'entrée semblait aussi inaccessible que la planète Mars. Le cœur de Duane, dont les battements s'étaient déjà accélérés pendant la course, cogna encore plus fort dans sa poitrine. Il se pencha par-dessus le garde-fou de la plateforme et regarda en bas, espérant vaguement apercevoir une silhouette noire dans le maïs, là où le pater serait tombé. Rien. Les tiges étaient serrées, et maintenant que les feuilles avaient poussé, on ne distinguait plus les rangées. Encore quelques semaines et le champ serait une seule masse compacte de maïs plus haute que lui. Mais avec les tiges encore basses, il était incompréhensible qu'il ne pût pas repérer le pater. Il s'avança sur la plateforme, essayant de voir aussi loin que possible.
« Pas ?»
Sa voix lui parut frêle. Il appela encore une fois. Aucune réponse, pas même un froissement de feuilles pour lui indiquer dans quelle direction son père se dirigeait. Entendant du bruit dans la cour de la ferme, il courut à l'arrière de l'engin. Le pick-up reculait derrière la maison. Il réapparut et descendit l'allée en marche arrière, tous phares éteints et la portière toujours béante. C'était comme un film défilant à l'envers. Duane commença à crier, puis il se rendit compte de l'inutilité de ses efforts et regarda en silence le pick-up s'engager sur la 6, toujours sans lumière. Ce n'était pas le pater. Cette pensée lui fit l'effet d'une douche glacée. Il rentra dans la cabine, s'assit sur le siège. Mieux valait ramener cette saleté de truc dans la grange. Pas de clé de contact. Il ferma les yeux, essaya de se souvenir de toutes les modifications apportées par le pater au système d'allumage, tira sur le démarreur. Rien. L'engin ne partirait pas sans la clé de contact accrochée d'habitude au mur de la grange. Alors, allumons les phares. Cela viderait rapidement la batterie, mais le champ serait éclairé comme en plein jour sur une centaine de mètres. Rien non plus. Il fallait mettre le contact. Il ressortit de la cabine. La transpiration ruisselait sur son visage et il s'obligea à respirer lentement et profondément pour se calmer. Le maïs, qui paraissait si bas quelques heures plus tôt, donnait maintenant l'impression d'être assez haut pour dissimuler n'importe quoi. Le seul chemin dégagé en direction de la maison était la saignée de 10 mètres de large taillée par la moissonneuse-batteuse. L'enfant n'avait pas la moindre envie de s'y aventurer à pied. Il se glissa sur le rebord métallique derrière la cabine et se hissa sur la trémie. Le couvercle grinça un peu sous son poids. Il se pencha, trouva une prise et grimpa sur le toit de la cabine. Vu du haut de 4 mètres, le champ avait l'air d'une masse noire qui s'étendait à l'infini. Une légère brise se leva. Il frissonna et boutonna son col de chemise.
« Je vais rester ici. Ils s'attendent à ce que je retourne à la ferme à pied, alors je ne vais pas bouger. »
« Qui ça ? Il ?» Percevant un très faible bruissement dans le maïs, il se pencha. Quelque chose de long et large se déplaçait à travers les tiges, glissait à une quinzaine de mètres de lui avec un frôlement soyeux. Un léger mouvement des tiges en marquait le sillage qui décrivait un large cercle. S'il avait été en mer, Duane aurait pensé à un dauphin nageant derrière un bateau et ne laissant voir que l'éclat bref de son dos. Le très faible espoir que ce soit le pater s'évanouit lorsqu'il remarqua que la chose se déplaçait bien plus vite qu'un homme. Un serpent monstrueux, peut-être, un animal au corps aussi gros que le sien et long de plusieurs mètres. Il eut un rire étranglé.
« C'est du délire !»
L'étrange apparition décrivit un quart de cercle autour de la moissonneuse-batteuse, atteignit la saignée et, avec autant d'aisance qu'un poisson, fit demi-tour et repartit en sens inverse. Le garçon entendit un autre frôlement sur sa gauche. Une créature, tout aussi grande et tout aussi silencieuse, glissait dans le maïs de l'autre côté de la machine.
Chaque fois que les monstrueux reptiles atteignaient la saignée, ils repartaient en sens inverse, 30 cm plus près qu'au trajet précédent.
Merde! Plus question de quitter la moissonneuse batteuse!
S'il était reparti à pied, ces créatures glisseraient juste à côté de lui maintenant.
Je fais un cauchemar!
Il se reprit. C'était bien un cauchemar, mais il le vivait vraiment. Il tâta le métal froid du toit de la cabine, renifla l'odeur de l'air et de la terre humide. Aussi incroyable que cela puisse paraître, tout était bien réel. La pâle lueur des étoiles révélait la longue forme et fluide des limaces serpents qui allaient et venaient en décrivant toujours des cercles. Un jour qu'il pêchait dans la Spoon River avec son oncle, il avait attrapé une lamproie. Une bestiole apparemment constituée en tout et pour tout d'une énorme gueule garnie d'innombrables rangées de dents et d'un tube digestif rouge. Il en avait fait des cauchemars pendant un mois. Ces créatures qui patrouillaient dans le maïs et dont seul le froissement des feuilles trahissait la présence lui rappelaient fortement la lamproie.
« Je n'ai plus qu'à rester là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Et après, il n'est même pas minuit, ça fait 5 heures à tenir. » Et ces choses partiront-elles à l'aube? Sinon, je pourrais toujours monter sur le toit de la cabine et agiter ma chemise. Il y aura bien quelqu'un qui finira par me voir de la scie.
Il descendit de la cabine à la trémie pour regarder derrière la machine. Rien à proximité. S'il percevait un mouvement près de l'engin, il serait sur le toit en un clin d'œil. Il y eut un bruit dans l'allée, là-bas, très loin. Un bruit de moteur, mais toujours pas de phare.
Le pater. Il revient.
À l'instant même où il se rendait compte que ce n'était pas le bruit de moteur du pick-up, il vit le véhicule passer sous le lampadaire. Rouge, avec une benne à latte de bois et une cabine rouillée. Le camion d'écarissage traversa la cour et entra prudemment dans le champ. Duane sauta sur le toit de la cabine et dut s'asseoir pour lutter contre une soudaine nausée.
Non, ce n'est pas possible.
Le camion parcourut une centaine de mètres sur la saignée de maïs coupée, puis se plaça en diagonale comme pour barrer le passage. Il était encore à environ 100 mètres, mais Duane sentait déjà l'odeur de charogne et distinguait du mouvement à l'arrière. Des formes pâles en descendirent et commencèrent à s'approcher sans hâte.
Merde !
Duane tapa du poing sur le toit de la cabine. Les silhouettes se détachaient sur la lumière du lampadaire et il remarqua qu'elles avaient forme humaine, mais elles se déplaçaient bizarrement, comme si elles chancelaient.
Une, deux,
il en compta 6. Il entra dans la cabine, chercha à tâtons la trousse à outils derrière le siège, enfonça un tournevis de 10 cm dans sa ceinture et sortit le plus gros et le plus lourd outil, une manivelle. Ainsi armé, il retourna sur la plateforme. Les lamproies tournaient plus près, à moins de 10 mètres, et les 6 silhouettes s'approchaient par la saignée.
« Au secours! Au secours !»
hurla-t-il en direction de la maison d'oncle Henri, à plus d'un kilomètre de là.
« Au secours! Je vous en supplie !»
Il se tut. Son cœur cognait si fort qu'il semblait prêt à jaillir de sa poitrine.
« Me cacher dans la trémie? Non, ça prendrait trop de temps d'ouvrir le panneau d'accès, et de toute façon, ce n'est pas une cachette. » Électrifier tout le bazar ?
Un sursaut d'espoir. Il s'agenouilla pour regarder sous le tableau de bord. Un écheveau de fils électriques entrait dans la colonne de direction. Le pater les avait tous modifiés et réarrangés. Sans lumière, Duane ne pouvait voir la couleur de la gaine isolante, ni savoir quel fil était connecté au système d'allumage et quels autres au ventilateur ou au phare. Il en tira 4 au hasard, arracha les gaines avec les dents et en connecta 2. Aucun résultat. Pas d'avantage au second essai. Il essaya une nouvelle combinaison lorsqu'il entendit des pas. Il se pencha pour jeter un coup d'œil. Les silhouettes humaines étaient à 6 mètres de la moissonneuse batteuse. Les 2 plus proches semblaient être des hommes. Le plus grand aurait pu être Van Syck. La 3e évoquait une femme en haillons ou enveloppée dans un linceul dont des morceaux traînaient derrière elle. Il scia en remarquant que la clarté des étoiles se reflétait sur des os, visible par les déchirures du vêtement. 3 autres formes approchaient dans le maïs. La plus proche était moins grande et coiffée d'un chapeau de brousse. 6.
au moins. »
Duane sortit sur la plateforme en brandissant la manivelle, enjamba la balustrade, sauta sur la coupe. Les 8 rangs de becs cueilleurs luisaient d'un éclat froid, leurs chaînes d'amenées et leurs rouleaux cueilleurs à demi enfoncés dans la terre, leurs extrémités plantées dans les tiges à l'endroit où la machine s'était arrêtée. Les marches de métal résonnèrent derrière lui. On montait sur la plateforme. Une ombre s'approcha sur sa droite. La puanteur du camion d'écarissage était plus forte que jamais. Duane attendit que les lamproies arrivent en se croisant à l'extrémité de leur parcours en boucle, le plus loin possible de lui. C'est le moment! Il sauta par-dessus les becs cueilleurs, écrasa des tiges en touchant le sol, fit un roulé-boulé avant de se relever, puis il courut à perdre haleine le tournevis qui lui avait écorché le ventre et la manivelle serrée dans la main. Les tiges crépitèrent lorsque les lamproies bifurquèrent soudain dans sa direction. Il entendit derrière lui d'autres pas sur les marches métalliques, d'autres tiges de maïs écrasées. Il courut de toutes ses forces, plus vite qu'il ne l'avait jamais fait, plus vite qu'il ne s'en serait cru capable. La ligne d'arbres de Johnson se trouvait droit devant lui, les lucioles y scintillaient comme des yeux. Quelque chose passa près de lui, un sillage dans le maïs serpenta juste devant. Il s'arrêta, chancela, fut à deux doigts de tomber. La créature se tourna vers lui. Elle lui avait semblé plus basse que le maïs parce qu'elle était à demi enterrée dans la terre humide, comme un ver géant. L'avant remonta, des dents scintillèrent.
Exactement comme la lamproie.
Elle attaqua comme un chien. Duane tourna sur lui-même à la façon d'un torero et abattit la manivelle avec assez de force pour lui fracasser le crâne, sauf qu'il n'y avait pas de crâne. La manivelle rebondit sur une peau épaisse, gluante.
« Comme si j'essayais d'assommer un câble !»
eut le temps de penser le garçon, tandis que la monstrueuse mâchoire se renfonçait dans le sol et que le dos s'arquait tel celui d'un serpent de mer. Il entendit derrière lui un bruit de pas rapide. Le soldat levait vers lui ses mains pâles. Duane tournoya et jeta la manivelle. L'homme en uniforme n'essaya même pas de l'esquiver. Le chapeau de brousse vola au sol et Duane entendit le son sourd, écœurant de la manivelle heurtant le crâne. La silhouette ne s'arrêta pas, ne chancela pas. Bras tendu, semblable à un robot, le soldat continua d'avancer, ouvrant et refermant ses doigts comme des serres. Quelqu'un d'autre approchait de l'autre côté. Une troisième silhouette courait en avant pour lui barrer le chemin. Il y avait d'autres mouvements dans l'ombre. Duane tira le tournevis de sa ceinture et s'accroupit en essayant de rester au niveau du maïs. Il sentit le sol bouger sous lui et sauta de côté. Trop tard. Le ver monstrueux avait refait surface. Il toucha la jambe gauche de Duane et replongea. Duane roula dans le maïs, luttant pour se relever malgré les picotements de sa jambe, comme si on lui avait envoyé une décharge électrique. Chancelant, tenant toujours le tournevis comme un couteau, il s'appuya sur sa jambe droite et regarda l'autre. Il manquait un morceau de chair. Il y avait un trou à son pantalon de velours, un autre à son mollet. Il pouvait même voir le muscle. À la lueur des étoiles, son sang semblait noir. Toujours à cloche-pied, il tira son bandana de sa poche et l'attacha serré autour de sa jambe. Il s'occuperait de cela plus tard. Il boitilla vers la ligne d'arbres, encore si loin. Un soudain remue-ménage dans les maïs le fit obliquer à gauche en direction de la route. Trois formes l'attendaient. Duane voyait leurs dents luire dans le noir. Le soldat approchait, on l'aurait dit juché sur un chariot tiré par un câble, bien droit, raide, remuant à peine les jambes. L'horrible automate avançait droit sur lui. Duane n'essaya pas de courir. À l'instant où les doigts livides se tendaient vers son cou, il poussa un grognement menaçant et enfonça son tournevis dans le ventre vêtu de kaki. L'outil pénétra aussi facilement qu'un couteau dans une pastèque pourrie et s'enfonça jusqu'aux manches dans une substance molle. Le garçon recula en chancelant. La forme sombre était toujours debout et ses deux mains serraient son bras gauche comme un étau. Il les attaqua à coups de tournevis. Un objet lourd s'abattit sur sa nuque. Il tomba à terre. Le sang de sa jambe gauche éclaboussa le maïs, ses lunettes volèrent au loin, il avait perdu ses deux pantoufles et ses pieds étaient pleins de boue. Une créature longue et humide glissa tout près de son visage, puis disparut dans le sol. Il essaya de la frapper à coups de tournevis, mais on le lui arracha.
Beaucoup de doigts s'accrochaient à présent à ses bras. Ils étaient au moins quatre à le maintenir au sol. Une main osseuse lui enfonçait le visage dans la boue. Il la mordit, mâcha une chair qui avait un goût de poulet oublié au soleil pendant une semaine, cracha, sentit ses dents racler l'os. La main ne relâcha pas sa pression. Il entreaperçut un visage féminin rongé de lèpre et de pourriture.
C'est un cauchemar!
Mais il savait bien qu'il ne rêvait pas. Quelque chose, mais pas le ver monstrueux, mâchait sa jambe indemne en grondant comme un chien enragé.
« Vite !»
pensa-t-il soudain submergé par le désespoir.
« Au secours !»
Quelqu'un posa une lourde botte sur son visage, le lui enfonçant plus profondément dans la terre. Une tige de maïs cassé lui piqua le crâne. Il entendit un bruit semblable à celui d'un chat crachant une boule de poils. Puis, un autre bruit. Le monde grondait et tournoyait autour de lui. Mais même au bord de l'évanouissement, que la partie lucide de son esprit savait provoquer autant par la peur et le choc que par la perte de sang, il reconnut ce grondement. On avait fait démarrer la moissonneuse batteuse. Elle s'approchait de lui dans l'obscurité. Il entendait le bruit des tiges cisaillées, traînées entre les mâchoires des becs cueilleurs et les rouleaux. L'odeur de maïs fraîchement coupé couvrait en partie la puanteur de la charogne. Il continua à se débattre, à tenter de se lever, à ruer, à mordre ou griffer les formes sombres qui l'écrasaient. La botte sur son visage appuya plus fort. Ses pommettes étaient sur le point d'éclater, mais il continua son combat fou. Il y eut un mouvement rapide, la puanteur se déplaça, il aperçut des étoiles, puis le bruit et la masse de la moissonneuse batteuse remplirent le monde. À l'instant où la botte se retira de son front, Duane souleva la tête. On tirait sur ses jambes, une force irrésistible l'emportait, le retournait, l'entraînait dans un tourbillon qu'il sentait dans toutes les fibres de son corps. Mais pendant une fraction de seconde, un bref instant, il fut libre. Il vit les étoiles. Et il leva le visage vers elles en tournoyant, aspiré par l'obscurité qui rugissait tout autour de lui. À Elmhaven, Mike O'Rourke dormait, assis près de la fenêtre sur un des fauteuils de la chambre de Memo, sa batte de baseball sur les genoux. Un bruit brutal le tira du sommeil. À l'extrémité sud du bourg, un incroyable vacarme réveilla brusquement Jim Harlan d'un cauchemar hanté par un visage derrière une fenêtre. Sa chambre était noire, sa bouche amère, et son bras lui faisait un mal de chien. Kevin rêvait dans sa chambre impeccable quand un son lointain mais assourdissant et vibrant le fit s'asseoir dans son lit haletant. Il tendit l'oreille, n'entendit que le bourdonnement du climatiseur. Puis cela recommença, et une autre fois. Dale s'éveilla en sursaut, exactement comme lorsque, en s'endormant, il rêvait qu'il tombait dans un trou. Son cœur cognait dans sa poitrine. Il sentait qu'un terrible événement venait de se produire. Il entendit bouger dans le lit voisin et sentit les doigts de son petit frère le tirer par la manche de son pyjama.
« Qu'est-ce qui se passe ?» bégaya le petit.
Dale repoussa les couvertures en se demandant ce qui pouvait l'avoir effrayé à ce point. Puis cela recommença, un bruit terrible, profond, grave, qui résonnait dans sa tête. Il regarda Lawrence, le vit se boucher les oreilles et le regardait avec des yeux affolés.
« Il l'entend. » Lui aussi.
Le bruit retentit de nouveau. Une cloche, plus sonore, plus grave, avec un plus grand pouvoir de résonance que toutes les cloches d'Elmhaven réunies. Le premier coup l'avait réveillé. Le second retentit dans la moiteur de la nuit. Au troisième, Dale se raidit, se boucha les oreilles et s'enfonça sous les draps. Il s'attendait à entendre ses parents sortir en courant de leur chambre, les voisins s'interpeller, mais rien de tel ne se passa. Terrifiés, Lawrence et lui écoutèrent le bourdon qui semblait retentir dans leur chambre. Il sonna quatre coups, puis cinq, et continua impitoyablement jusqu'à douze.